de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on compte bien le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Un cinérama un peu particulier car on n'a pas pu réunir toute l'équipe dans le même studio. On a dû adapter le sommaire de cette émission. Nous avions prévu un blind test autour de la filmographie d'Angelina Jolie puisqu'elle est dans le biopic Maria, mais ça n'a pas été possible. Donc on s'est adapté et puis finalement, on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de rendre un petit hommage à Bertrand Blier qui nous a quittés au mois de janvier. Nous l'avions rencontré il y a quelques années, on avait fait une longue interview, un peu plus d'une demi-heure, et bien là ce sera l'occasion de l'écouter un tout petit peu, juste pour ne pas l'oublier. Et puis sinon il y aura 4 films quand même aujourd'hui, il y aura un feel good movie, un film d'horreur, un biopic, et puis un film sentimental et un peu politique. Mais nous allons commencer avec l'immersion dans une prison où il est question de faire du théâtre. Nous parlons de Sing Sing.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Il semblait loin le temps où les fictions prenaient place dans le cadre d'une prison pullulée dans le paysage cinématographique. Alors il y a par exemple quelques films majeurs français-américains dans les années 60-70 comme le chef-d'œuvre Le Trou de Jacques Becker, symphonie carcérale humaniste déchirante à la conclusion très noire. Il y a aussi le prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster, adaptation de l'histoire vraie de Robert Stroud qui avait passionné les foules et l'opinion publique avec ce détenu trompant ses barreaux en s'attachant à des oiseaux, symbole fort s'il en est de la liberté. Ou encore, bien sûr, l'évade d'Alcatraz, réunissant la Dream Team derrière l'inspecteur Harry, se basant également sur un récit d'évasion haletant. Alors, une autre explosion viendra dans les années 90 avec Les Évadés de Frank Darabont, Meurtre à Alcatraz de Marc Rocco, ou encore l'excellent Animal Factory de Steve Buscemi, qui adaptait son partenaire de jeu de Reservoir Dogs, Eddie Bunker, vrai ancien détenu, dans une histoire résumée presque tout entière dans son titre. Alors, on en oublie un autre, une comédie, celle-là, qui va pourtant servir d'inspiration très forte à Sing Sing, sans que la production ne le mentionne nulle part. Il est déjà question de Barrault, bien sûr, mais aussi de Shakespeare. Un certain film de Penny Marshall se sera sûrement rappelé à votre bon souvenir. Je parle bien évidemment de l'inoubliable Opération Shakespeare qui ne se passe pas stricto sensu dans une prison, mais dans un univers tout aussi fermé et austère, une école militaire. Il mettait en scène un Danny DeVito obligé de donner des cours de littérature à des élèves considérés comme inaptes intellectuellement, et bien évidemment la magie opérera, un peu comme l'autre gros succès de la même année, Esprit Rebelle. Shakespeare, via l'étude d'Hamlet, va élever des gens n'ayant pas plus d'horizon que leurs très modestes conditions. Et cette pièce de théâtre va avoir un impact majeur sur ses apprentis soldats. Eh bien, c'est peu ou prou l'intrigue de Sing Sing se passant dans la prison du même nom. Incarcéré à tort pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine J se consacre corps et âme à l'atelier de théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des plus gros cahiers du pénitencier, Divine Eye, se présente aux auditions et la pièce qu'ils vont monter va révéler des hommes et des âmes qui avaient bien besoin de l'art pour s'évader. Derrière vers Sing Sing. Hein. Il y a l'idée hein, d'utiliser le nom de la prison de manière symbolique. Hein. Sing Sing, en anglais, ça peut aussi vouloir dire deux fois chante. Hein. Ce que font quelque part ces détenus pour s'évader. Hein. Une première fois pour se révéler et une seconde fois pour enfin atteindre leur rédemption. Greg Quédard hein, s'inspire lui aussi hein, d'une histoire vraie et va même pour l'occasion recruter de nombreux anciens détenus ayant bénéficié de ses cours de théâtre ayant changé le cours de leur vie. Alors dans ce même souci d'authenticité, le réalisateur filme quasiment tout à l'épaule, hein, embrassant un genre documentaire qui pourrait émouvoir, car le fond de l'histoire est bien évidemment entièrement dédié à l'émotion hein, que procure cette renaissance et rédemption par l'art, s'il ne plongeait pas son histoire dans tous les tournants attendus de ce genre de récit. Alors un peu plus de fiction aurait été bienvenu, hein, car en l'occurrence on a l'impression d'avoir vu un milliard de fois le film, et on a compris absolument tout ce qui allait se passer dès la fin de la scène d'ouverture. Alors la renaissance est certes touchante, hein, car profondément sincère, mais passe par tous les archétypes du genre surmixé, atténuant grandement la portée de ce qui est pourtant une petite sensation en festival. Renaissance, tiens, c'est assez marrant, hein, parce que le titre original de Opération Shakespeare n'est-il pas Renaissance Man ?
Sing Sing est en salle depuis la fin janvier. Un couple assiste à un week-end entre amis qui vire au drame. C'est le film d'épouvante de Cinérama, Compagnon.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
J'ai connu deux moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. La première fois, le jour où j'ai rencontré Josh.
Je m'appelle Josh.
Et moi, Iris. Et la seconde, le jour où je l'ai tué.
Avoir un bon copain, comme chantait en son temps Henri Gara. Ou plutôt une bonne copine consentante avec qui on s'amuserait. C'est sans doute ce que Josh a dû rêver pendant longtemps. Mais un jour, il rencontre la fille parfaite dans les allées d'un supermarché. Iris, jolie, souriante, docile, amoureuse, elle incarne la femme parfaite, trop parfaite aux yeux d'un homme qui cache bien son jeu derrière sa bonhomie de geek moderne. Derrière la façade, que se cache-t-il ? Si vous avez vu la bande-annonce, inutile de tourner autour du pot. Dans le cas contraire, n'écoutez plus rien, même si dans ce cas, il y a de fortes chances que vous viviez dans un monde parallèle, un univers où Black Mirror n'existe pas, où vous n'avez jamais vu Terminator de James Cameron, ni IA de Steven Spielberg. Voilà, Compagnon pourrait être la version adulte du récent Megan, où la dimension horrifique se substituerait à celle d'un thriller vénère et ironique, reprenant même les tropes classiques du film noir traditionnel. Bref, ce petit couple tout mignon est invité un week-end chez des amis, la réunion festive dégénère et tourne au drame, lié à la nature même d'Iris, ou plutôt à l'exploitation que Josh va en faire à des fins opportunistes et même criminelles.
Il faut que tu te détendes, il faut que tu souris et que t'aies l'air contente.
Ça a jamais fait partie du plan. Ah là là, Josh. Tu n'auras plus jamais le contrôle sur moi.
Me dis pas que t'es en train de me quitter.
C'est pas toi. C'est moi.
Écrit et réalisé par Drew Hancock, dont il s'agit du premier long métrage, Compagnon révèle très vite ses enjeux au point de griller toutes ses cartouches. Mais le scénario, malin et ludique, plutôt que chercher à surprendre par un twist si évident qui n'en est pas un, dissémine habilement les indices par des dialogues sous-entendus, des regards insistants, des attitudes gênantes, installant d'emblée une ambiance de faux-semblant où personne ne paraît être ce qu'il est, y compris l'une des cibles du film, caricature de mafieux russe qui tremperait dans des affaires pas très nettes. Quand la machine s'enraye, le film devient une sorte de comédie noire qui ne lésine ni sur la violence, ni sur un humour méchant assez jouissif. Évidemment, le réalisateur débutant coche les cases du cinéma contemporain, attribuant le mauvais rôle au personnage central, Josh, le mâle alpha frustré, gentil en apparence, qui feint de respecter les femmes, mais qui au fond n'est qu'une ordure mise et arriviste, même si, en surface, la manière dont il traite Iris d'un point de vue légal et humain n'est pas condamnable. Alors, il symbolise cette fange de l'humanité qui aimerait contrôler son prochain, soumettre sa moitié à ses désirs inavoués et à ses pulsions scopiques. Le récit épargne les autres protagonistes sans pour autant les rendre attachants ou même sympathiques. C'est aussi la limite d'un film fléché, très explicite dans ses intentions satiriques.
Must be a kind of blind love. All right, I only have eyes for you.
D'une certaine manière, avec moins de profondeur, Drew Hancock livre une version moderne du magnifique Les femmes de Stepford de Brian Forbes, hein, adaptation du beau roman d'Ira Levin. Le discours féministe, pas toujours subtil, s'accommode pourtant bien avec ce huis clos plus régressif que réflexif, mis en scène avec une efficacité et un sens de l'économie qui nous venge des dernières productions Blumhouse. La facture télévisuelle d'une photographie aux couleurs ternes alliée à un décor moderne de soap opéra, hein, une somptueuse villa immaculée, sert d'écrin idéal à un récit qui prend plaisir à se dérégler à l'image du pétage de plomb d'Iris, poupée Barbie bien badass. Alors si Jack Quaid est parfait dans le rôle de Josh, hein, la prestation tout en nuances de Sophie Thatcher, hein, aperçue récemment dans Hérétique, est la meilleure raison d'aller voir ce jeu de massacre jubilatoire qui peut avoir pour certains ou certaines une fonction cathartique. Dans tous les cas, et ce n'est pas si courant, Compagnon reste un chouette divertissement qui ne cherche jamais à être ce qu'il n'est pas, contrairement par exemple au récent calamiteux Baby Girl.
Compagnon est en salle depuis fin janvier, la fin de la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde. Nous parlons maintenant de Maria, biopic bien très attendu.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je souhaiterais retracer votre vie avec vous. Dois-je vous appeler Maria ou la Calas ?
Les femmes, et les femmes célèbres en particulier, on ne peut pas dire que le réalisateur Pablo Larraín ne les aime ni ne les collectionne pas. Alors si on met de côté Emma en 2020, hein, sur une danseuse fictive mais qui est quand même censée représenter Mère Nature, il enchaîne quasiment sans discontinuation, hein, les biopics d'icônes féminines du passé. Alors ça a commencé en 2016, hein, avec Jackie, hein, retraçant les jours douloureux vécus par Jackie Kennedy à la suite de l'assassinat de son président de mari. Ça continue en 2021 avec Spencer, hein, en mettant en scène le difficile mariage entre le prince Charles et Diana, la princesse des cœurs. Et voilà qu'une sorte de trilogie informelle voit le jour avec Maria, hein, un portrait des derniers jours de Maria Callas. Alors on reste donc dans la haute société balayée par les sentiments les plus bas, ce qui n'est pas forcément synonyme de redondance chez Larraín.
Dites-moi ce que l'on ressent quand on monte sur scène.
Une exaltation incandescente, une folle ivresse. J'avais la sensation que la scène tout entière allait s'embraser.
Encore un biopic, hein, pourrait-on s'exclamer, hein, tant le genre pullule sur nos écrans depuis quelques années, revenu en force en particulier du côté musical. D'ailleurs, Maria se retrouve en salle face à un parfait inconnu, hein, consacré à Bob Dylan, ou encore Better Man sur Robbie Williams. Hein, mais la comparaison s'arrête là, car déjà, il n'y a pas d'harmonica ou de singe, mais aussi parce qu'on ne peut pas reprocher, c'est bien une chose qu'on ne peut pas reprocher, hein, à Pablo Larraín, c'est de s'approprier totalement ses sujets au point d'en faire des personnages qui ne ressemblent à rien d'autre que des créatures issues de son cinéma profondément singulier. Alors cela pourrait sembler paradoxal, hein, car des figures historiques ou des faits connus du grand public et de l'histoire du XXe siècle, il y en a quasiment partout, hein, chez ce réalisateur chilien. Mais si on prend par exemple El Conde, hein, son film sur Augusto Pinochet, hein, il n'hésite pas à transformer le dictateur sanguinaire en véritable vampire dans une farce à nul autre pareil. Alors, point de fantastique dans Maria, mais une déambulation fantasmagorique de toute beauté dans la psyché et l'art de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, du moment où elle embrasse déjà la mort sans se rendre compte qu'elle s'est déjà éteinte, loin du soleil des projecteurs. Alors à l'origine, il y a un excellent script de Steven Knight qui avait déjà officié pour lui sur Spencer. Il fallait bien cette plume pour donner l'envergure nécessaire à l'envers du décor auquel nous assistons. Lui qui avait si bien su écrire un anti-Casablanca pour Robert Zemeckis avec l'exceptionnel Allié, décortiquant les codes du drame historique romantique pour mieux les magnifier, en prenant à revers un public nostalgique venu manger une soupe toute prête. Eh bien, c'est à peu près peu ou prou ce qu'il fait avec Maria, offrant la dose d'histoire et de glamour réclamée en première instance, mais en délivrant un portrait de femme exceptionnelle à plus d'un titre, et les versants sombres dignes d'un Icare s'étant brûlé les ailes après avoir tutoyé les cieux, en voulant s'affranchir de l'héritage sombre de nombreux dédales ayant parsemé sa vie.
C'est une chose qui se produit parfois, la chose qui se produit en cet instant.
Il y a un point où la confiance en soi devient presque une sorte de folie.
Cela vous convient, la position du piano, madame ?
Non, je n'aime pas. Mais je suis gentille, alors laissez-le là.
J'aimerais que vous me parliez de ce qu'est votre vie en dehors de la scène.
Je n'ai pas de vie en dehors de la scène.
Riche et complexe, la mise en scène alterne les différents formats, du 35 au 16 mm en passant par le Super 8 et jongle entre les lents plans fixes ou en travelling et les séquences à l'épaule, semant le trouble sur la diva que nous découvrons à la fois comme figure publique, mais également en filigrane au détour de ses émois, de ses regrets, mais aussi de ses hallucinations. Alors c'était un terreau fertile pour une actrice qui souhaitait s'engager dans un rôle complexe, et nous n'avons probablement pas vu Angelina Jolie aussi investie depuis L'Échange, le chef-d'œuvre un peu oublié de Clint Eastwood. Larrain n'a pas hésité à la faire chanter, ce qui est osé quand on s'attaque à la Callas, mais pour un travail de mixage en direct au tournage qui s'avère bluffant. Alors pour l'épauler, il y a aussi les impeccables Pierre Francesco Favino et Alba Rohrwacher, et plus improbable, notre Vincent McCain national dans le rôle d'un docteur. Larrain va jusqu'au bout de son travail sur ces femmes splendides, à la fois muses, déesses, mais aussi damnées à subir le poids de leur célébrité, de leur talent parfois broyé par des hommes médiocres mais puissants, et de leur pulsion de vie qui rencontre bien souvent la mort. Maria Callas cristallise une partie de ce que le XXe siècle a offert de plus beau et de plus terrible aux gens, mais avant tout aux femmes, et Larrain nous plonge habilement dans une psyché brillante mais torturée, à laquelle le découpage rend doucement hommage. À tous les niveaux, c'est un spectacle assez incontournable sur grand écran.
Maria est en salle depuis le 5 février. L'amour au grand âge à Téhéran dans un film aussi politique que poétique. Nous parlons maintenant de mon gâteau préféré.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Mon gâteau préféré met en scène Mahin, femme de 70 ans et veuve depuis 30 ans, qui vit seule à Téhéran. Abandonnée par ses enfants et petits-enfants qu'elle ne voit désormais plus qu'une fois par an, elle trouve le temps bien long et, à force de tuer ce temps en regardant des romances à la télévision, elle finit par comprendre que ce qu'il lui faut, c'est un nouveau mari. Alors non pas parce qu'elle ne sait pas vivre toute seule ou a besoin d'une figure masculine protectrice, comme il en existe malheureusement trop dans ce pays, mais parce qu'elle a de l'amour à revendre avec sa bonhomie, sa gentillesse et son talent pour la cuisine. Bravant tous les interdits, elle décide de réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Faramaz, un chauffeur de taxi qu'elle rencontre dans un café et qu'elle va suivre. Leur soirée sera unique, magique et inoubliable pour plein d'autres raisons. Il est amusant et un peu déprimant de voir que les meilleures histoires d'amour que l'on peut voir au cinéma à l'heure actuelle met souvent en scène des personnes d'un certain âge, voire comme si carrément des seniors, comme si la jeunesse et la jeune génération ne croyaient plus en des sentiments bons, naïfs et purs. La simplicité qui se dégage de mon gâteau préféré, du moins la première partie, fait du bien au cœur et à l'âme avec ces septuagénaires qui trouvent toujours des plans à faire pour un avenir qu'ils espèrent meilleur que leur quotidien. Sans oublier, bien sûr, le discours profondément critique sur le gouvernement religieux qui a littéralement sacrifié plusieurs générations et qui continue aujourd'hui. C'est montré via une magnifique métaphore d'ampoule réparée qui illumine enfin un jardin laissé depuis très longtemps dans le ventre d'une nuit noire, et donc de Mahin qui intervient pour sauver une jeune femme trop maquillée malgré le port du voile, qui était à deux doigts d'être capturée par la sinistre police des mœurs. La jeune femme lui dit qu'elle a eu au moins, elle, le bonheur de connaître le pays sans la dictature islamiste, et s'étonne de voir une vieille s'en faire encore. Le fait que le film soit co-réalisé par une femme, Mariam Mogdanam, déjà derrière le remarqué Le Pardon en 2021, rappelle les véritables combats féministes d'importance à continuer à soutenir à l'heure actuelle et qu'il faut continuer à témoigner et à éduquer les jeunes générations sur ce droit à la liberté et au bonheur avant qu'ils ne s'envolent pour de bon. Car oui, tout a malheureusement ses limites et s'arrête un jour, ce que ne manque pas de nous rappeler également le film. Alors à l'instar de ses camarades Jafar Panahi ou Mohamed Razoulov, le tournage de Mon gâteau préféré a d'ailleurs été réalisé en semi-clandestinité et, tout particulièrement comme le chef-d'œuvre Les graines du figuier sauvage, il se fait l'écho du mouvement contemporain Femme, vie, liberté. Quand on compare à la nullité du récent Daddio, qui lui aussi mettait en scène une sorte de couple improbable qui se mettait en place autour d'un taxi, on se dit que le cinéma humaniste iranien a encore de très très beaux et longs jours devant lui. Et face à la dépolitisation du cinéma mondial sur des questions essentielles traitées de manière hypocrite, est d'autant plus brillant et précieux, honoré par une forme modeste qui enlumine son fond d'une profonde richesse.
Mon gâteau préféré est en salle depuis le 5 février. Je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous allons maintenant rendre un tout petit hommage à Bertrand Blier. Bertrand Blier que j'avais rencontré il y a quelques années déjà. J'avais mis un temps en fait avant de monter cet entretien. Je l'avais fait, j'avais diffusé cette interview il y a quelques années déjà, peut-être 4 ans dans Cinérama. Là, eh bien, j'ai décidé de rendre ce petit hommage à Bertrand Blier, donc, qui nous a quittés au mois de janvier, en diffusant une partie des réponses qu'il m'avait données. On insiste essentiellement sur les valseuses et préparez vos mouchoirs, et puis on parle un peu de cinéma français aussi. Voici Bertrand Blier dans Cinérama.
Mon copain et moi, avant de te quitter, vu qu'on se reverra sans doute jamais, on voudrait te demander, comme qui dirait, une petite faveur.
Avec vos conneries, je vais être en retard au salon. Bah non, c'est toujours.
Ce serait de toucher les poils de ton cul, pareil que ça porte bonheur.
Les Valseuses, ça a été votre premier grand film. Un film qui est arrivé comme ça dans un paysage cinématographique français de manière assez abrupte. Ça s'est pas passé aussi simplement parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient opposées justement à votre style franc. Comment vous l'avez reçu finalement? Est-ce que ça vous a aidé au contraire à en faire d'autres?
Ça s'est passé très simplement, contrairement à ce que vous dites. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a un TGV qui arrive dans la campagne, même si les gens ne sont pas contents, le TGV passe. Hein, et c'était un TGV, le film. Donc voilà, il y avait des gens qui gueulaient, mais ils venaient quand même, parce qu'ils venaient voir le film, ils venaient pour gueuler. Donc ça faisait beaucoup de monde, donc tout le monde a vu le film, et ça a duré des années, parce que le film est ressorti tous les ans après. Et c'était merveilleux, il y avait des queues devant les cinémas de 300-400 mètres, enfin c'était... Aujourd'hui, on ne fait plus la queue au cinéma, mais à cette époque-là, il fallait attendre 2 heures.
Là, on l'a fait peut-être pour Avatar, voilà, pour des grands films comme ça. Et justement, j'aimerais bien savoir connaître votre regard un peu sur le cinéma aujourd'hui. Alors peut-être même davantage le cinéma français. Est-ce que vous regardez vos contemporains?
Je suis très pessimiste sur le cinéma parce que je pense qu'il est évident qu'on vit à une époque où c'est l'image qui règne. Surtout, l'image domine tout, il y a beaucoup d'images. Mais l'image, ça n'a rien à voir avec le cinéma. L'image, c'est de l'image, quoi, simplement. N'importe quel crétin peut faire des images, peut filmer une bagarre, une poursuite en voiture. Mais le vrai cinéma, c'est autre chose, c'est un regard, c'est une conception artistique, c'est bon. Et là, il y a très peu de gens qui font du vrai cinéma. Il y a très, très peu de gens. On a souvent l'impression, quand on voit des films, qu'on regarde en fait des émissions de télévision, plus ou moins bien faites.
Alors, en revanche, vous avez eu quand même énormément de liberté. Vous avez fait jouer à plusieurs reprises Gérard Depardieu et Patrick Devers. Est-ce que c'est simple, quand on est réalisateur, de faire jouer ces deux acteurs? Est-ce qu'on y prend du plaisir est-ce qu'on se dit qu'il y a un enjeu là-dedans? Il faut que je réussisse.
Engager Gérard Depardieu et Patrick Devers, c'est simplement prendre les meilleurs. Donc, moi, quand on me parle de la direction d'acteur, de tous ces trucs-là, je réponds toujours, vous savez, la direction d'acteur, elle consiste à d'abord avoir des bons personnages et ensuite prendre les acteurs les meilleurs au moment où on fait le film pour faire les rôles. Alors, quand on a réussi ces deux trucs-là, le film, il est presque terminé. Donc, quand vous avez Depardieu, Devers ou des gens comme ça, comme j'ai eu là, Dujardin, Dupontel, c'est des acteurs où... Ils sont tellement fantastiques que, bon... Le problème, c'est surtout qu'est-ce qu'on va manger ce soir à dîner, quoi. Mais faire les plans, c'est tellement agréable. C'est un bonheur, quand même. C'est du boulot, mais c'est un boulot de... C'est un boulot tellement merveilleux, tellement humainement aussi, tellement sympathique, tellement... Bon, moi, je fais des films toujours dans la bonne humeur. Donc, parce que j'aime beaucoup les acteurs. Donc je n'ai jamais de conflit avec les acteurs. Et quand ils sont très bons, ben, je les regarde, je suis au spectacle, je me régale, quoi.
Non, mais il y a un article sur les grands opéras.
Intéressant?
Oui, très intéressant.
Et ma femme, vous la trouvez intéressante?
Pardon?
Je te demande si tu trouves ma femme intéressante. Si elle est à ton goût. Si elle se rapproche un peu de ton idéal féminin.
Je n'ai pas d'idéal féminin.
Bravo, moi non plus. Mon idéal, c'est quand elle sourit. Manque de bol, elle sourit plus.
Si on reparle de Devers et Depardieu, alors à ce micro, Gustave de Kervern, donc, qui a fait jouer Depardieu il n'y a pas longtemps, nous racontait que Depardieu avait raconté que lors d'une journée de tournage, Devers et Depardieu s'étaient fait la belle lors d'un plan large. Alors est-ce que vous pouvez confirmer cette chose?
Oui, c'est une chose, c'est une toute petite histoire qui a été poussée au niveau de la légende au fil du temps. Il y avait un plan où ils étaient tous les deux dans une deux chevaux et ils devaient faire un démarrage et faire rouler 50 mètres, s'arrêter puis revenir. Bon, comme on fait dans tous les films, un plan à la con sans aucun intérêt dans la campagne. Et je leur dis, on dit moteur, et je leur dis partez. Ils sont partis, ces cons-là, ils sont pas revenus. Voilà. Bon, enfin, ils sont quand même revenus une demi-heure après. Mais ils m'ont fait la blague, quoi. Voilà. C'était pas vertigineux comme blague. Voilà.
Non, mais c'était une espèce de bonne humeur, comme ça.
Il y avait souvent des incidents de ce genre dans les valseuses, forcément. Oui, parce qu'ils étaient jeunes, très chauds, très rock'n'roll, très indisciplinés. Et moi, qui avais 10 ans de plus qu'eux, je passais pour le vieux con, quoi.
Et ça, ça a changé, cette bonne humeur. Alors, vous dites que vous pratiquez la bonne humeur sur les tournages, mais par rapport aux acteurs, est-ce que ça se passe de la même manière? Est-ce que là, ils continuent à vous faire du blague? Vous parliez du Jardin et du Pontel. Est-ce qu'il y a ce même rapport au cinéma? On peut déconner, est-ce qu'on peut perdre du temps, d'ailleurs, maintenant?
Il faut choisir des acteurs qui aiment bien rigoler, quoi. En général, les très bons acteurs sont des gens très marrants. Je parle des mecs, hein, pas des filles qui sont plus sérieuses. Mais il y a aussi des grands acteurs pas marrants. Moi, j'ai eu, par exemple, un film avec Alain Delon. Alain Delon n'est pas marrant, mais c'est un très grand acteur. Donc, c'est un plaisir de jouer, de le mettre en scène. Mais on ne fait pas de blagues. Voilà. Mais c'est quand même très agréable. Gérard Lanvin, par exemple, qui est un acteur formidable, on ne fait pas trop de blagues non plus avec lui, parce qu'il est assez tendu, stressé, donc il faut respecter ça. Mais la plupart du temps, j'ai des déconneurs, quoi. J'ai travaillé avec Coluche, avec Jean Carmet, avec Michel Serrault, avec des gens qui pensent qu'à dire des conneries.
Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
2147.
Un amour, Buzzati. Un autre. Vite, 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 vite.
3427.
Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
1536.
Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein? Je vais t'en faire un enfant, moi, ça va pas traîner.
Alors préparez vos mouchoirs, ben encore une fois avec Depardieu et Devers. Alors il y a une séquence qui est tout à fait étonnante, c'est cette séquence où Devers présente sa collection de livres de poche. Alors ça c'est, enfin j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Alors comment c'est venu cette idée? Parce que c'est merveilleux cette séquence.
L'idée des livres de poche avec Patrick, c'est une idée de crétin. Oui, je me suis aperçu que ça serait... C'est une façon de se moquer de la culture ou d'une mauvaise digestion de la culture. C'est-à-dire que le mec, il connaît tous les livres de poche par cœur, mais seulement par les numéros. Et on se demande s'il les a lus. Mais il peut dire, par exemple, 240, le rouge et le noir. Il peut faire un jeu télévisé. Il était en avance sur son temps, quoi.
Il a aussi une passion pour un seul artiste, c'est Mozart.
C'est une critique tendre, d'ailleurs, des gens qui croient avoir découvert quelque chose de la culture, mais n'aimer que Mozart. C'est déjà bien d'aimer Mozart. Un type qui aime Mozart, il est meilleur qu'un type qui aime rien. Mais ça serait bien qu'il écoute les autres aussi, qu'il écoute Bach et Beethoven au moins, quoi. Et là, c'est une espèce d'abruti enculturé qui n'est pas dénué de sensibilité, qui a de l'oreille, qui aime Mozart. Parce que pour aimer Mozart, il faut avoir un peu d'oreille, quand même. Puis voilà, donc c'est des trucs qui me font rire, parce que je me moque gentiment de personnages qui ont du pathétique, quoi. Il y a des gens comme ça dans la vie qui ne lisent, par exemple, qu'un seul écrivain, par cœur. Mais jamais les autres.
Tu tiens à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics.
Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette.
Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence.
Gerbard de Grunewald. Meilleur clarinettiste du monde.
Voilà, c'était un petit hommage à Bertrand Blier qui nous a quittés en janvier 2025. Tout ce qu'on peut vous conseiller, eh bien, c'est de se refaire ces films, même les films avec Depardieu.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine dans Cinérama avec beaucoup de choses et notamment une interview de Costa Gavras que j'ai eu le plaisir de rencontrer. À la semaine prochaine.